Nous sommes à Milan, au temps de l'Empire romain, en l'an 374. Le gouverneur de la province, Ambroise, a moins de 40 ans. Sa responsabilité politique est énorme, puisque Milan est alors résidence impériale et la deuxième ville d'Italie. Mais Ambroise est un homme politique remarquable. Il a fait des études, il a de l'autorité, de l'éloquence, de la sagesse. Une mosaïque du 5e siècle, dans une chapelle de la basilique de Milan, a gardé son portrait, celui d'un homme maigre, aux grands yeux, aux grandes oreilles, au visage digne et bon, un peu incliné. Tout le monde admire ce païen cultivé, car il faut préciser qu'il n'est pas chrétien, même s'il a de la sympathie pour le christianisme. Or voici qu'un événement imprévu va bouleverser sa vie. L'histoire est célèbre, et j'ai plaisir à vous la raconter. L'évêque de la ville étant mort, le clergé et les fidèles se rassemblent, comme on le faisait à l'époque, pour élire le nouvel évêque. Or nous sommes en pleine crise arienne, et dans l'Église, depuis un demi-siècle, deux partis s'affrontent durement. Catholique ou arien, de quel bord sera le prochain évêque ? Les groupes s'interpellent, chacun y va de son candidat, la foule est en tumulte, on s'écharpe, on s'insulte. En tant que préfet de police, Ambroise arrive d'urgence pour calmer les débats et prend la parole de façon très posée. Il le fait tellement bien que pendant qu'il parlait, raconte son biographe, une voix d'enfant s'éleva soudain du milieu de la foule en criant « Ambroise, évêque !» Tout le peuple répéta ce cri et du coup le conflit entre ariens et catholiques fit place à une merveilleuse et incroyable unanimité. Fin de citation. La suite, vous la devinez. Ambroise refuse, essaye de se dérober, mais la pression populaire est trop forte, et surtout on peut penser qu'elle rejoint un appel intérieur auquel il ne veut pas désobéir. Il accepte donc de devenir chrétien, démissionne de son poste de gouverneur, et en très peu de temps gravit tous les échelons de la hiérarchie, puisqu'on sait qu'il fut baptisé le 24 novembre, et ordonné évêque le 7 décembre, à peine deux semaines après. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'exemples dans l'histoire de carrière ecclésiale aussi rapide. Mais l'Église ne regrette pas ce choix, puisqu'Ambroise fut non seulement un grand évêque, mais un saint, un docteur, un des principaux pères de l'Église latine, et c'est par lui, quelques années plus tard, que saint Augustin sera converti et baptisé. Je ne vous raconterai pas la vie de saint Ambroise qui a confirmé sa grandeur d'âme et sa force de caractère. Je signalerai seulement que pendant les 23 ans de son épiscopat, il a tenu tête à 4 empereurs, à 2 impératrices, aux sénateurs païens de Rome, aux hérétiques ariens, à de graves crises politiques et militaires. Même si les chrétiens n'étaient plus persécutés, l'époque n'était pas facile. Mais c'est plutôt à l'autre extrémité de son ministère et de sa carrière que je voudrais maintenant vous emmener. Nous voici dans les années 390, et c'est un homme vieillissant qui trempe sa plume dans l'encre pour rédiger une lettre, peut-être d'une écriture un peu tremblante, à un ami nommé Sabin. Celui-ci l'avait interrogé, semble-t-il, sur la solitude. Et Ambroise y voit l'occasion de lui en parler comme un père, sur le ton de la confidence et presque à la manière d'un testament. Cette lettre 49, très courte, est un chef-d'œuvre de délicatesse. Car la solitude, Ambroise la connaît bien, elle qui accompagne toujours les hautes fonctions et les grands destins. Ce n'est pas pour s'en plaindre, au contraire, car en tant qu'homme spirituel, il aime la solitude. Et il l'accueille volontiers, non seulement comme une source de paix, mais comme un moment d'ouverture et de communion. Voici ce qu'il écrit. « En vérité, je ne suis jamais moins seul que lorsqu'il semble que je suis seul. Car alors je fais venir près de moi, en esprit, ceux que j'aime. Personne ne m'interrompt, personne ne m'importune. Avec toi, je médite sur les Écritures aussi longtemps qu'on peut le souhaiter. » Marie était seule lorsqu'elle parlait avec l'ange. Elle était seule lorsque le Saint-Esprit la couvrit de son ombre. Oui, les plus grandes décisions de notre vie se prennent dans la solitude, et pour un chrétien, à l'écoute de l'Esprit et de la parole de Dieu. Plus loin, Ambroise a cette phrase inoubliable qui m'a donné envie de vous parler de lui aujourd'hui. Maintenant encore, Dieu se promène dans le paradis lorsque je lis les Saintes Écritures. Ce paradis, ce jardin intérieur, ce jardin secret, voilà le lieu dans lequel saint Ambroise aimait se ressourcer. Un lieu toujours accessible et facile à retrouver, la parole de Dieu. Qui d'entre nous n'a pas une Bible à portée de la main? Et si vous n'en avez pas, qui vous empêche d'en choisir une dans la version et le format qui vous conviennent? Ou même d'avoir toujours dans votre sac ou votre boîte à gants un petit évangile, un psautier, un Nouveau Testament? Pas comme un talisman ni un objet magique, mais comme le texte source sur lequel vous voulez fonder votre vie. Lire les Écritures, comme on consulte quelqu'un qui nous fait du bien, comme on allume son téléphone pour avoir des nouvelles importantes. Vivre tous les jours à l'écoute de son Créateur, comme Adam dialoguait avec lui, à la brise du soir, dit la Genèse. Ouvrir ce livre saint très régulièrement, comme on reçoit avec bonheur les lettres de quelqu'un qu'on aime. Quels que soient nos soucis, nos tracas, nos préoccupations du moment, et saint Ambroise n'en manquait pas, revenir toujours à cette parole vivante, à cette lettre porteuse d'esprit. Maintenant, Dieu se promène dans le paradis lorsque je lis les Saintes Écritures. Et Ambroise de poursuivre, la Genèse est un paradis où fourmillent les vertus des patriarches. Le Deutéronome est un paradis où germent les préceptes de la loi. L'Évangile est un paradis où l'arbre de vie produit de beaux fruits, répandant partout les paroles de la vie éternelle. En écrivant cela, Ambroise ne pensait sûrement pas que 1600 ans plus tard, sa lettre voyagerait sur les ondes, comme elle vient de le faire pour vous parvenir. Il aurait été bien surpris d'apprendre que sa petite phrase sur le paradis ferait un jour, peut-être, le tour du monde. Mais l'hommage qu'elle rendait à la parole de Dieu lui donnait cette puissance. Quand nous sommes nourris de la parole de vie, nos propres paroles deviennent des semences.